I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue sur L'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Low From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. De notre santé et 75% de notre équilibre hormonal dépendent de notre mode de vie. Les variations d'humeur, la perte ou le gain de poids, la fatigue, les soucis digestifs, le manque de libido. Les troubles hormonaux prennent des formes très variées à tous les âges de la vie et concerneront quasiment toutes les femmes à un moment de leur vie, peu importe leur statut. Cette vérité est dure à entendre, mais c'est bien le cas. Ces déséquilibres encore trop tabous proviennent majoritairement du stress, de la sédentarité ou encore de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. En prendre conscience, c'est commencer à agir. Caroline de Blinière a fondé Millet, une marque experte, naturelle, adaptée au cycle féminin, élaborée avec un comité d'experts. Ensemble, on parle de son parcours, de son changement de vie pour entreprendre dans le bien-être, de ses difficultés et au contraire de ses plus grandes victoires dans son aventure entrepreneuriale, mais également de comment fonctionnent les hormones, de ses recommandations pour prendre soin de son équilibre hormonal et des principales idées reçues que nous entendons encore beaucoup trop sur la santé des femmes. Un épisode indispensable pour en finir avec les tabous, redevenir actrice de notre propre santé pour réussir et réaliser nos rêves. Belle écoute. Bonjour Caroline.
Bonjour Laura.
Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu?
Bien, écoute, en cette fin d'année chargée.
Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore?
Alors, donc je m'appelle Caroline, je suis la cofondatrice de Millet, donc avec Anna qui est ma BFF, je rigole en disant ça, mais ma très bonne amie depuis les bancs du lycée, on se connaît depuis très longtemps. Et on a décidé de fonder Millet, donc qui signifie la bonne amie en provençal, qui est une marque qui est en fait dédiée à l'équilibre hormonal féminin. Donc l'idée, c'est d'accompagner les femmes avec des solutions expertes de la puberté à la ménopause et surtout de le faire comme une bonne amie. C'est-à-dire qu'on va aborder les sujets tabous. On va parler sécheresse intime, variation d'humeur, postpartum, toutes ces réjouissances, mais surtout avec transparence, bienveillance et en ayant en tête que on puisse se confier comme à une bonne amie et accompagner les femmes à ces étapes de la vie qui ne sont pas toujours faciles.
Très bien, et vous le faites extrêmement bien.
Je te remercie.
Depuis quelques mois, ou en tout cas, je vous connais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux m'expliquer les moments forts de ton parcours et de ton histoire pour que l'on te connaisse mieux avant Millet, justement?
Alors, pour être synthétique, moi, j'ai toujours été obsédée par la beauté et le bien-être. Que c'est parce que j'avais une grand-mère pharmacienne, je sais pas, mais il y a toujours eu cette obsession de tester plein de choses et de faire des produits qui puissent faire du bien. Et j'ai travaillé donc pendant plus de 15 ans dans le bien-être et la cosmétique, donc les compléments alimentaires et la cosmétique. J'ai travaillé en France et à l'étranger dans des petites marques, des grandes marques. Et en fait, en retour de l'étranger, quand je suis rentrée donc de Dubaï où j'ai passé quelques années, j'ai eu un espèce de... Bon, je pense qu'il y avait un mix de crise du milieu de vie autour de la quarantaine, de besoin de quête de sens, de comment j'ai envie de bien vivre avec mes trois enfants, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire au fond de moi, à quoi j'ai envie de consacrer mon énergie. Vraiment, j'ai eu ce moment... où j'ai eu envie de m'aligner et de trouver un projet qui soit complètement aligné avec ce que je voulais faire. Et donc à chaque fois que je dis un projet, on est aligné, généralement c'est un projet qui nous empêche de dormir quand on commence à creuser, c'est très bon signe. Et j'ai toujours donc travaillé dans le bio depuis 2006, donc très en amont, donc j'ai toujours été éduquée sur les parties de perturbateurs endocriniens, de pollution environnementale, de comment on peut essayer d'avoir un monde un peu plus éthique, plus débarrassé des toxiques qui perturbent notamment l'équilibre hormonal. Et c'est là d'où est né le projet de Millet, en partant vivre dans le sud de la France avec mes trois enfants, après un retour à Paris un peu chaotique, et que j'ai lancé ce projet.
Et c'est intéressant justement, j'allais t'en parler, tu pars à Dubaï en 2015, tu commences à travailler là-bas. Est-ce que tu peux m'expliquer justement ce que tu as constaté là-bas qui a pu te faire te tourner vers le bien-être, finalement?
En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme décalage entre les pays sur justement la perception du naturel, de la pollution, du rapport aux soins. Par exemple, à Dubaï, avec un fait très marquant, c'est que les femmes pouvaient investir beaucoup d'argent dans du make-up, bah, notamment voilà, les yeux, et puis de la lingerie, et puis des vêtements et des sacs, et que par contre, on allait acheter son soin de jour, sa crème de jour, en GMS, donc en supermarché. Et finalement, c'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais plus une économie est mature, plus on va se pencher un peu sur les problématiques de soins, de pollution, de comprendre ce qui se passe dans notre corps. Et ces nouveaux marchés étaient inondés. Il n'y avait vraiment pas cette culture du soin. Et donc, moi, ça m'a marqué. Et puis surtout, il y avait aussi ce besoin de revenir à des choses plus naturelles, sûrement en train de Dubaï. Mais j'ai vraiment eu besoin de revenir habiter un peu dans la nature, de retrouver les marques avec les enfants. Les enfants qui posaient la question tous les deux jours, ça, c'est de la vraie herbe, c'est de la vraie neige. Oh, dans Dubaï, j'ai dit, oui, c'est de la vraie. Et il y avait peut-être un peu ce fil rouge. Mais c'est vrai que surtout, je pense que le fait de bouger, de sortir de sa zone de confort, de plus avoir de repères, ça donne aussi un peu le sentiment que tout est possible. En France, on a aussi un état d'esprit qui est finalement souvent assez prudent, très analytique. On va mettre du temps à analyser les choses dans le travail, ça se ressent beaucoup. Et on nous dit souvent, vous êtes très analytique, bravo. Mais par contre, il y a parfois un manque de prise de risque, d'esprit entrepreneurial, de valoriser un petit peu l'instinct. Et c'est, je pense que c'est deux phénomènes concomitants qui ont donné cette envie. Et puis après, il y a les fameuses synchronicités, auxquelles je crois beaucoup, parce que le retour à Paris était compliqué, un peu chaotique, pour être honnête. Plus envie de vivre à Paris, plus envie d'élever mes enfants à Paris. Alors, je suis parisienne pure souche de base. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que le moment où mon projet a commencé à mûrir, en disant est-ce que je vais faire d'abord des accompagnements de médecine alternative, j'ai beaucoup pensé, ou des produits, puis je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ce que je sais faire. Et là, j'ai commencé à rencontrer à un dîner quelqu'un qui était spécialisé dans les gels intimes bio et qui avait un super actif qui était révolutionnaire. Et puis le dîner d'après, ou trois jours plus tard, je sais pas, un événement, je rencontre... Et en fait, j'ai une série de synchronicités qui m'ont vraiment poussée à mettre à jour ce projet, parce qu'on hésite toujours un peu quand on est dans le confort des postes et des moquettes des grosses boîtes, mais effectivement, je regrette pas parce que ça m'empêchait de dormir.
Toujours écouter les synchronicités.
J'y crois beaucoup.
Est-ce que tu peux m'expliquer les premières étapes de mise en place de cette entreprise?
Alors la première étape, je pense la plus longue, la plus ingrate et en même temps la plus indispensable, c'est quand justement tu es chez toi à te poser toutes ces questions. Et pour vous remettre un peu dans la chronologie, j'ai quitté Paris donc fin 2019, donc juste avant la première vague de Covid. Donc on venait de s'installer, donc c'était génial parce que par contre on avait de l'espace. Mais en revanche, tu te retrouves à travailler sur un projet dans un cadre de crise mondiale où déjà tu commences à travailler seul et là tu es coupé de tout lien, voilà, même de bureau, et tu travailles un peu le soir, t'as un petit peu là. Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que c'est vraiment utile à mon équilibre hormonal au milieu de cette crise sanitaire? Et en fait, ces moments très fragiles où il y a beaucoup de remises en question et on va beaucoup, beaucoup se questionner le sens, la mission, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce que je vais apporter. Je pense que le Covid l'a encore exacerbé dans l'exigence. Et au début, t'es toute seule, quoi, entre guillemets. Alors, ce qui est drôle, hein, c'est que Anna, qui m'avait poussée à me lancer sur le projet, parce qu'évidemment, on communiquait beaucoup, m'a présenté divers associés potentiels avec qui ça n'a pas fonctionné jusqu'à ce qu'elle me rejoigne par crise de sens pendant la crise du Covid et qu'elle décide enfin de démissionner. Mais au début, on est très seul. On est complètement dans la remise en question permanente. On a beaucoup de travail, il n'y a rien de concret. C'est extrêmement ingrat. Mais je pense que c'est une étape nécessaire pour savoir si on veut aller au bout du projet. Parce que ce projet, après, c'est un marathon, il faut le tenir. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de choses. Moi j'aime beaucoup l'opérationnel, j'aime beaucoup voir les choses vivre, j'aime beaucoup développer une équipe, voir les gens embarqués par la marque, c'est des satisfactions qui sont énormes. Mais ce moment de doute intense, il est hyper important de le creuser et de ne pas le balayer du main, parce que je pense que c'est vraiment tout le socle du projet. Et que parfois, en entrepreneuriat, on a tendance à aller un peu vite sur un business plan avant de vraiment creuser le sens et le pourquoi du comment, quoi. Qu'est-ce que j'apporte ?
Et qu'est-ce que tu as trouvé, on va dire, de plus facile et plus difficile jusqu'à présent, dans la mise en place et même dans la continuité du projet ?
Alors, le plus difficile, pour commencer par ça, c'est être seul. Moi, ouais, qui pensais être un être un peu asocial, qui ait besoin pour me recharger d'être seul, se mettre à travailler vraiment seul, et j'ai été seule pendant quasiment un an sur le projet, en fait, c'est assez dur. Alors, je sais pas si c'était un mix avec le Covid et tout, mais j'avais vraiment ce besoin d'échanger, de décharger le stress. Donc, il y avait Anna qui était quand même pas mal en behind the scenes. Mais par exemple, le jour où on a eu notre première stagiaire avec Anna, mais c'était le Teresa. Donc, ça a changé notre vie, quoi. Donc, il faut pas sous-estimer la puissance des équipes. Et je pense qu'on est vraiment plus fort à deux dans l'entrepreneuriat. Ouais. Ça, j'en suis à deux ou plus. Mais ça, j'en suis persuadée. J'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneuriats solo parce que je trouve que ça change tout. C'est déjà compliqué à gérer en vie pro, perso.
Il faut bien s'entourer, quoi. Il faut avoir vraiment des personnes qui font comme toi, avec lesquelles tu peux échanger, partager tes victoires, tes échecs, tout.
Ouais, et puis ne pas hésiter à même avoir, on disait, un stagiaire, une alternante. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah oui, mais ça me crée une contrainte, je travaille de chez moi. » Bon, moi, j'ai commencé à travailler de chez moi, hein, dans ma maison. Et ma super alternante qui maintenant travaille avec nous, qui a embauché Nina, elle a commencé à travailler dans ma chambre, sur mon bureau. Et puis, ça s'est super bien passé, ça crée des liens. Enfin, il y a aussi une proximité des débuts qui est assez géniale. Donc, il ne faut pas hésiter parce que ça change le mindset. Tout d'un coup, on doit communiquer sur sa marque et on se confronte à la réalité aussi. Et le plus facile, pour revenir au cycle, et finalement, moi, je pense que c'est un fil rouge de mon expérience, c'est vraiment de pouvoir se reconnecter plus à son énergie. Parce qu'évidemment, on travaille beaucoup en entrepreneuriat, mais il y a quand même une certaine forme de liberté qu'on a plus que dans le cadre de salariat. Et résultat, parfois, on a des énergies un peu contraires. On peut être dans un jour, on se dit, là, c'est vraiment pas le jour où j'ai envie de faire les choses rébarbatives, de traiter mes factures et tout. J'ai une envie de communiquer, d'aller voir les gens, j'ai envie de faire des brainstorming. Et en fait, on peut beaucoup plus surfer sur ces énergies un petit peu cycliques, en fait, que dans la vie réelle. On peut mieux équilibrer les sphères. Ça veut dire que ça n'existe pas la journée parfaite où le matin, tu as ta super sphère avec tes enfants, tu prends le temps de discuter, de faire un exercice. Après, ta journée de travail, tout se passe bien, c'est parfait. Puis le soir, tu fais ton yoga et ton cheval et c'est une journée merveilleuse. Mais par contre, quand tu as une grosse journée, par exemple cette semaine marathon à Paris, je rentre et je me dis, ok, là, il y a, je sais pas, un jour dans la semaine, je vais chercher mes enfants à l'école. Je vais me faire une journée où je sors le déjeuner, je me fais mes calls et je me fais un tour, je vais à la plage. Et en fait, on peut rééquilibrer, on a cette liberté-là et il faut la prendre. Parce que la cause numéro un de problème en entrepreneuriat, enfin de boîte qui périclite, c'est le burn-out de l'entrepreneur. Donc c'est d'abord vous, votre réserve, c'est un marathon. Et je pense que souvent les entrepreneurs l'oublient, mais il faut se préserver au milieu de ce chaos.
Tout à fait. Millet s'est donné pour mission d'aider les femmes à redevenir actrices de leur bien-être et de leur cycle naturellement. Et avant qu'on rentre justement dans cette partie plus technique, on va parler des hormones. Moi, je tiens à te dire personnellement que je suis vraiment fan de la marque. Moi, j'ai des douleurs qui sont liées au postpartum depuis 4 ans maintenant. Et avec Millet, j'ai enfin trouvé une solution pour m'accompagner dans ces symptômes, pour les comprendre déjà, et ensuite m'accompagner dans ces symptômes et les réduire peu à peu. Donc, merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu peux commencer par m'expliquer très basiquement ce que sont les hormones et comment elles fonctionnent ?
Oui, alors les hormones, il faut pas les réduire aux hormones sexuelles, ce qu'on a tendance à faire par approximation. Ça agit dans tout le corps, c'est ce qu'on appelle les messagers du corps. En grec, c'est les messagers. Et donc, il y a aussi bien les hormones sexuelles que les neurotransmetteurs, donc ce qui va agir sur le moral, que les hormones qui sont liées à la thyroïde, à l'hypophyse. Enfin, il y a énormément d'hormones qui circulent dans le corps. Donc, c'est un grand ensemble systémique, un peu à la manière du microbiote, dont on voit qu'il agit évidemment sur la digestion, mais aussi la métabolisation des éléments, sur le moral. On est vraiment dans les deux grands ensembles systémiques du corps, et ça veut dire que dès qu'il y a une hormone qui est déséquilibrée, en fait, toute la symphonie hormonale est perturbée. Donc, par exemple, aujourd'hui, dans un milieu où on est tous de plus en plus stressés, ça c'est factuel, toutes les études le montrent, le cortisol et la noradrénaline, hein, qui sont vraiment les hormones du stress, ont tendance à être produites de manière trop permanente. Et le stress est l'ennemi numéro un des hormones, puisqu'il va venir perturber en fait tout le fonctionnement hormonal, parce qu'une hormone se regarde toujours l'une par rapport à l'autre. On dit souvent œstrogène par rapport à la progestérone. On va plus regarder un ratio entre l'un et l'autre que de regarder juste le taux d'une hormone isolée. C'est d'ailleurs assez compliqué à mesurer.
Plusieurs troubles viennent d'un mauvais équilibre hormonal, donc comme les douleurs au sein, comme l'acné. Parfois, c'est assez méconnu. On ne sait pas forcément que ça vient d'un problème hormonal. Est-ce que tu peux me parler justement des principaux troubles et de leurs symptômes ?
Oui, en plus, nous, c'était amusant parce qu'on était partis, on trouvait aussi qu'il y avait une omerta autour de la ménopause qui est progressivement en train de s'ouvrir. Et le premier complément alimentaire qu'on a lancé, qui est féminin, était censé être un complément alimentaire uniquement pour la ménopause. Et en fait, en creusant, nous, on voulait une approche de retour à l'état d'équilibre, c'est-à-dire de regarder vraiment les causes racines. Souvent, dans les approches hormonales, on dit « Ah, bah vous devez manquer d'oestrogène, on va vous donner un ovule aux oestrogènes, on va vous donner... » C'est des approches que j'appelle béquilles ou des phytohormones, les fameuses soja, houblon qu'on va redonner en complément. Et nous, notre approche était complètement différente parce qu'on disait, mais finalement, c'est un phénomène naturel. Par exemple, si les hormones baissent à la ménopause, le corps a été prévu pour ça. Si on a une chute brutale après le postpartum, le corps est prévu pour ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme qui fait qu'on se sent mal? Surtout que tu as deux femmes en endocrinologie qui ont le même taux d'hormones. Tu en as une qui va avoir énormément de bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, qui va mal le vivre. Et tu en as une autre à côté qui a les mêmes taux hormonaux et qui va se porter comme une fleur. Donc, le dosage hormonal n'est pas si précis que ça. C'est plus une science, d'ailleurs, des symptômes et une science vraiment du mode de vie, l'endocrinologie. Et les principaux symptômes qu'on retrouve, que ce soit autour de la périménopause ou du syndrome prémenstruel, c'est vraiment cette inflammation chronique. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre hormonal latent qui crée de l'inflammation dans le corps, parce que dès que la symphonie est perturbée. Donc, inflammation, ça veut dire, ça peut être des douleurs de congestion. Tu parlais des seins tendus, alors... Attention, les seins tendus et l'acné ou les imperfections, c'est des choses multifactorielles. Parfois, c'est pas hormonal. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imperfections adultes. À partir de 35-40 ans, il y en a de plus en plus. Surtout quand c'est autour de la mâchoire, un peu kystique, sur le haut du dos, le haut du décolleté. Ça, ce type d'imperfection adulte, c'est très souvent hormonal. Et en fait, on se rendait compte que cette inflammation, en fait, toutes les hormones, c'est quand il y a des balais hormonaux qui sont un petit peu déséquilibrés ou un petit peu brutaux. Le foie, c'est le grand organe de recyclage des hormones. Donc, il fallait beaucoup traiter le foie, traiter le terrain, essayer en fait de donner un coup de pouce à l'organisme pour qu'il arrive à mieux absorber ces variations hormonales un peu brutales. Et puis après, il y a évidemment tout le travail de fond. On en reparlera, je pense, mais qu'il y a l'exercice physique, l'alimentation qui est super important. Mais ce qui est hyper intéressant, et c'est pour ça qu'on a fait une gamme qui va parler d'intimité, qui va parler de douleur au sein, qui va parler de variation d'humeur, c'est qu'en fait, ce qui fait souvent réaliser les femmes, parce que les femmes sont les premières à pas réaliser ces symptômes, c'est de voir ces symptômes rapprochés. Nous, on nous avait dit, mais c'est casse-gueule. Bon, c'est un produit dans l'intime, un produit équilibre hormonal, un produit cheveux, on comprend rien. Et en fait, les femmes, en faisant le test de marché, on se dit, mais j'ai compris, en fait, en ce moment, je perdais mes cheveux, j'avais des variations d'humeur, des ballonnements. Et en fait, c'est le fait de regrouper ces faisceaux d'indices de symptômes qui prend du sens.
D'ailleurs, c'est très bien fait, justement, sur votre site internet. On voit tous les symptômes clairement écrits. Et justement, aussi sur votre site internet, vous proposez un diagnostic que moi, j'ai fait pour définir un profil hormonal, son profil hormonal. Et moi, personnellement, c'est drôle parce que ma gynéco m'en avait parlé à Dubaï. Deux des produits suggérés sont pour des symptômes qui peuvent être liés à une dominance œstrogénique, donc un ratio déséquilibré entre les œstrogènes et la progestérone. Et du coup, c'était un rappel, ce qu'on m'avait déjà dit. Mais Est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet?
Ouais.
Pour les femmes qui tombent sur ce genre de terme.
Et déjà, elle était bien éduquée, ta gynéco.
Oui, elle était exceptionnelle.
Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Et si tu veux, alors la dominance œstrogénique, quand même, alors c'est pas chiffré parce que c'est pas une pathologie en tant que telle, on est dans cette zone de flou, de confort, mais quand j'en parlais à des gynécologues, des endocrinologues, ils estiment qu'il y a plus de 70% des femmes qui sont en état de dominance œstrogénique. Et très souvent, les états d'endométriose ou de SOPK dont on parle plus, donc qui concerneraient chacun au moins 10% des femmes, sont liés aussi à de l'hyperœstrogénie. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? On parlait du stress, facteur numéro 1 de déséquilibre hormonal. En fait, le fait, donc il faut savoir que le cortisol est produit par les glandes surrénales. À l'origine, les glandes surrénales, c'est les petites glandes juste au-dessus des reins. Et quand on est en état de stress chronique, le cortisol est indispensable à la vie. Attention, on peut pas vivre comme un Bouddha sans stress, ça n'existe pas. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde que c'est plutôt absorber ses humeurs et ses variations d'humeur qui fonctionnent mieux que de vouloir refouler les émotions. Nous ne sommes pas des petits Bouddhas. En revanche, quand le stress un peu négatif est trop élevé tout le temps, ça veut dire qu'on est tout le temps sous tension, souvent les femmes, hein, une vie professionnelle un peu agitée, on rentre, la maison, il y a tout à faire, faut tout le temps organiser, il y a beaucoup de charge mentale. On a tendance à épuiser nos glandes surrénales et ça arrive très souvent chez la femme après le premier bébé ou autour de 30 ans. Et en fait, cette production un peu trop intense et continue de cortisol, alors que le cortisol est fait pour fonctionner par vague, va faire que les glandes surrénales vont s'épuiser. Et dans ces cas-là, les ressources de l'organisme, parce que si on n'a pas de cortisol, on meurt, on ne peut pas vivre sans cortisol, ça va être de dégrader la progestérone en cortisol. Et comme je te disais tout à l'heure, comme les œstrogènes se mesurent toujours par la progestérone, quand tu dois dégrader la progestérone en cortisol en réflexe de survie de l'organisme, bah en fait, tu accentues le fait que tu aies trop d'œstrogènes par rapport à la progestérone. Et
d'accord.
Les œstrogènes, c'est les hormones de la stimulation. Donc, c'est celles qu'on va couper, notamment, tu vois, quand tu as des cancers et tout, parce que c'est les hormones qui stimulent la prolifération des cellules, un peu stimulante, si je résume. Et la progestérone, c'est l'hormone qui calme. Donc, tu rentres dans un cercle vicieux où tu vas encore plus aussi stimuler le système.
D'accord.
Voilà, parasympathique, etc. Donc c'est vraiment un cercle vicieux et souvent la dominance œstrogénique se traduit par des douleurs au sein, les seins un peu congestionnés, la rétention d'eau, les œstrogènes, c'est l'hormone qui fait gonfler, qui stimule. Mmh. Donc ça va être toutes ces petites douleurs de congestion, mollet, le ventre aussi qui ballonne, les seins, les variations d'humeur, les problèmes de sommeil, l'irritabilité, souvent très très liées à de la dominance œstrogénique.
Mais c'est bien de le savoir aussi parce que, par exemple, les douleurs au sein, moi c'était un symptôme que je connaissais pas et qui me faisait penser tout de suite au cancer parce qu'on entend voilà, que le cancer peut
alors
donner
que finalement
aussi des
c'est très peu lié. Alors ça j'étais parce que moi j'avais très peur de ça, tu vois, niveau éthique, j'avais pas envie de dire ou douleur au sein, vous inquiétez pas, prenez la crème IE, c'est un cancer sous-jacent. Donc c'est la première question que j'ai posée pour être honnête à un gynécologue en disant bon, est-ce qu'on peut quand même parler de ces douleurs. Il m'a dit mais oui, ça concerne énormément de femmes et il m'a vraiment rassuré en me disant en fait, il y a très peu de cancer du sein qui donne des douleurs au sein. Les signaux, c'est vraiment tous ceux sur lesquels on a communiqué pendant Octobre Rose, les écoulements, le sein déformé, mais très très rarement des douleurs. Et ben ça m'a rassurée.
Mais ça peut quand même arriver.
Voilà,
donc,
ça peut arriver. Dans
les
tous
filles.
Les cas, ça ne change pas qu'il faille dépister,
oui,
tester.
Oui, oui.
Mais c'est vraiment pas un signe dominant. Et très souvent, c'est des signes beaucoup plus silencieux. Donc
c'est...
il faut regarder
ouais.
quand c'est silencieux. Et les rares fois où il y a des douleurs, apparemment, c'est vraiment dans des stades très avancés. Donc jamais attendre ça, évidemment. Mais juste pour revenir sur ces douleurs au sein de congestion, très souvent, c'est avec des seins qui gonflent un peu, qui sont plus tendus, plus durs que d'habitude. Quand on est là-dedans, un peu comme le ventre, il prend pas en gras tout d'un coup 10 jours par mois. C'est en fait, on a le ventre un peu tendu, un peu dur. On a l'impression que c'est rempli d'air. Bah c'est ça, c'est vraiment souvent des douleurs de congestion. Mmh. Mais il faut toujours creuser, bien sûr.
Très bon à savoir. On a parlé du stress. Est-ce que tu peux me parler des facteurs responsables des problèmes hormonaux?
Eh bah, évidemment, le stress en numéro un. Donc, beaucoup de choses à faire, notamment respiration, exercice, méditation, yoga et tout qui aide beaucoup. La respiration, c'est un socle qui est magique parce que quand on le travaille bien, après, on l'intègre dans sa vie et ça permet vraiment de pouvoir faire face à beaucoup de situations. Il y a la partie alimentation qui est clé. Et là, j'ai très envie de diaboliser le sucre parce que c'est quand même le grand perturbateur hormonal. Et que ce soit en SOPK, périménopause et tout, bah en fait, la résistance à l'insuline, notamment, qui est créée par des excès de sucre, et on sait qu'on mange beaucoup trop de sucre, est très mauvaise. Alors que réhabiliter les bons gras, parce que les bons gras, c'est ce qui va servir à nourrir les hormones aussi. Et donc, c'est très important, les oméga-3. de consommer ça, donc l'huile de colza, les poissons gras, plutôt les petits, parce que vraiment, même pour le moral, hein, ça joue énormément, les oméga-3, et sans ça, le corps ne peut pas produire correctement les hormones. Donc à un moment, on a diabolisé, je disais, le gras dans les années 80, et puis aujourd'hui, c'est vraiment les sucres rapides, l'ennemi numéro un, puis réintroduire des fibres aussi, qui sont extrêmement importantes, parce qu'on ne consomme même pas 50% des apports journaliers normalement. Et enfin, l'exercice. Et l'exercice, je vais insister là-dessus parce que ça paraît contre-productif. J'ai horreur des discours qui disent « Alors, pendant les règles, on fait plus rien. Hein, surtout, hein, restez chez vous, allongé dans votre lit avec une bouillotte. Ou pendant la ménopause, on fait plus rien. » Parce que ça fait comme si c'était normal de se sentir mal et de pouvoir rien faire. Mais on n'est pas censé être bloqué. On va en reparler. Ce côté cyclique, on peut l'exploiter. Ça peut être génial. Il y a plein de choses géniales à en tirer. Donc non, plus on prend en âge et plus on a ces choses, plus on peut faire des choses différemment. On peut être plutôt dans le stretching, les étirements et tout. Mais le corps a besoin de bouger. Et quand il va bouger, on va diminuer aussi l'inflammation, le stress oxydatif. On va calmer le stress. Ça joue vraiment à tous les niveaux. On se sent mieux dans sa peau. Il faut jamais s'arrêter de bouger. Et d'autant plus en périménopause. Hein. Le renforcement osseux, c'est vraiment hyper important.
Est-ce que la marche fait partie du fait de bouger?
Ouais. Et déjà, même sur le cerveau, le stress, parce que maintenant, on y vient de plus en plus. Avant, on parlait que du côté esthétique du sport. Aujourd'hui, moi, je sais que même quand je bloque sur une idée, de prendre l'air, d'aller marcher 20 minutes, une demi-heure, ça réactive plein de zones dans le cerveau. Et quand on revient, on a les idées beaucoup plus claires. Et on parle de plus en plus des walking meetings et tout ça.
Moi, je suis
obligée, les filles au bureau, à se faire un petit tour. On a la chance d'avoir la forêt en bas du bureau. Mais vraiment, c'est hyper important. Ça aère énormément le cerveau. Et oui, la marche est très importante. En fait, surtout avec l'âge et les femmes, il faut savoir qu'on a tendance à perdre en qualité osseuse. Et donc, en fait, il faut avoir des micro-chocs pour renforcer. Comme quand on avait mal au dos avant, on disait, vous avez mal au dos, bougez pas, surtout, restez... en fait, on dit tout l'inverse, tout le contraire aujourd'hui. Et la sédentarité, c'est aussi un des ennemis numéro un de tout, la santé. Donc, bouger.
Prendre des calls en marchant, par exemple.
Prendre des calls en marchant, je pense que la vie au bureau va beaucoup changer, avec notamment plus de télétravail. Alors, les bureaux debout, c'est pas forcément l'idée du siècle, mais le fait de au moins bouger, de faire ses walking meetings, d'avoir des espaces de vie, on est plus amené à bouger, on n'est pas assis toute la journée. De se retrouver dehors, de se lever régulièrement, enfin c'est vraiment très important. Il y a beaucoup de bureaux maintenant qui intègrent des cours de yoga, de pilates et tout. C'est essentiel. À tous les niveaux.
J'ai envie de reparler un petit peu du stress, justement, avec toi, qu'on s'arrête vraiment sur ce phénomène de société assez majeur, qu'on se le dise. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus en détail les effets du stress sur l'organisme et comment on peut concrètement agir sur le niveau de cortisol pour le diminuer?
Alors, donc les effets, ça va être déjà ce déséquilibre et cette inflammation. Donc ça, tu l'as compris, parce que quand on sécrète trop de cortisol trop longtemps, le stress n'est jamais un problème s'il est isolé. On a un gros stress, une journée, ça nous arrive à tout le monde, on se fait peu importe, ça fait partie de la vie. Le stress est mauvais quand on ressent un stress négatif trop longtemps. Les fameuses choses qui nous empêchent de dormir, où on se sent toujours dans un état... un petit peu, dépasser un peu tout le temps sous tension, quand on a des réflexes trop, trop développés et tout, quand on n'arrive pas à relâcher le fameux lâcher prise, là, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est quand on soumet trop longtemps l'organisme à un stress chronique que c'est pas bon. Et ça, c'est très caractéristique de nos sociétés. Les premiers conseils, c'est vraiment déjà l'exercice. Il y a beaucoup de gens pour lesquels ça fonctionne très bien. Ça veut dire s'aérer. En hiver, là, comme on est aujourd'hui, où nos heures de soleil sont très limitées, le soleil, c'est hyper important. C'est-à-dire dans les pays du Nord où ils ont presque pas de soleil, ils font des bains de soleil obligatoires et de la vitamine D. Je veux dire, ils sont extrêmement importantes pour garder le mental. On en a besoin. L'alimentation, il y a plein d'aliments qui favorisent la bonne humeur. Il y a des molécules géniales. Nous, on travaille avec le safran notamment. C'est absolument magique comme ingrédient. Il y a des études qui montrent que le safran est plus efficace que beaucoup d'antidépresseurs et c'est souvent prescrit en sevrage d'antidépresseurs. Donc il y a vraiment des aliments naturels qui ont pas, on parle pas de placebo, hein. On parle de vraies études sérieuses. Après il y a tout ce qui est tryptophane par exemple, ça va être dans la banane, le lait, le chocolat noir. Il y a vraiment beaucoup d'ingrédients aussi qui vont booster un peu ces molécules du bonheur. Et puis après, on en parlait tout à l'heure, vraiment la respiration et puis équilibrer ses sphères, je pense que c'est très important. En fait, on est souvent stressé chroniquement quand il y a une peur qu'on n'a pas identifiée ou alors qu'on se sent coincé dans un schéma. Et le fait de s'ouvrir des possibilités, de dire bon bah là il faut vraiment que j'ai une sphère sociale assez développée, enfin en tout cas j'ai besoin de ça, et même si j'ai beaucoup de travail je vais quand même aller à ma soirée, je vais quand même faire ça, ou j'ai besoin de me recentrer sur ma famille. C'est très important de garder ça en tête, parce que je pense que c'est un équilibre de vie. Et je sais pas si tu as vu le livre Good Life qui est sorti récemment.
Non.
Alors ça, je le conseille à toutes. The Good Life, c'est la synthèse d'une étude longitudinale qui a duré plus de 80 ans aux États-Unis sur les facteurs clés du bonheur. Mmh. Et donc, en fait, c'est hyper rare qu'on ait suivi plus de 700 personnes qui sont restées avec leurs descendants plus de 80 ans sur une même étude. Et on voit que vraiment, le bonheur n'est pas du tout dans l'argent. Bon, ça, on s'en doutait, mais l'argent, c'est pas... Ça influe énormément sur le bonheur quand on n'en a vraiment pas assez et qu'on est toujours à fin de mois à se dire comment je vais clôturer le mois et qu'on est à 50 euros par mois près. Oui, mais une fois qu'on a passé ce stade, en fait, l'incrémental ne joue pas. Qu'on soit multimilliardaire ou classe moyenne, ne joue très très peu. En revanche, les relations sociales, ça veut dire même les small talk, ils ont dit ça, c'est-à-dire de se retrouver, le petit discours qu'on a au marché avec un tel, son boulanger, peu importe. Et puis le fait d'échanger, de communiquer, d'avoir du sens en fait. L'être humain a d'abord besoin de relations sociales et de sens. C'est absolument énorme parce que tout le monde, on peut pas avoir toute sa vie une vie amoureuse hyper épanouie et tout, mais on peut toujours rechercher le beau, le sens, être aligné. Et c'est vraiment ce qui semble les facteurs clés de de bonheur et donc finalement de diminuer le stress.
Ce qui est rappelé aussi, je sais pas si t'as vu le documentaire Les Zones Bleues sur Netflix.
Ah non, j'ai pas vu.
C'est incroyable, c'est un journaliste américain qui fait une étude sur 5 zones dans la planète où les gens sont centenaires. Ouais. Et en fait, il explique pourquoi, en fait, il analyse les facteurs qui font qu'ils sont centenaires. Et il y a énormément ce que tu dis, les liens sociaux, c'est une des grandes bases. Il y a liens sociaux, s'engager dans des associations, et puis évidemment l'alimentation, l'exercice physique. Mais c'est hyper intéressant. Si on parle un petit peu de la compo des produits, Mie propose des soins et compléments alimentaires, je le rappelle, naturels et bio, vegan, fabriqués en France, sans phyto-hormones ni perturbateurs endocriniens suspectés. Un vrai sujet, les perturbateurs aussi. Je sais du coup, pour en avoir discuté avec toi, que vous prenez soin de la compo de vos produits et notamment du mariage des différents ingrédients et huiles essentielles. Est-ce que tu peux revenir sur les principaux ingrédients que vous utilisez et leurs bienfaits ?
Oui, alors nous l'approche elle est très simple, le socle c'est d'être, en fait on va accompagner les femmes, soit qui ont des pathologies, donc par exemple on fait hyper attention, on sait qu'on est sur une population fragile, on sait qu'un cancer n'est pas forcément diagnostiqué tout de suite, qu'il y a des femmes qui sont sous traitement hormonal, qu'il y a des femmes qui sont sous traitement pour problème de thyroïde qui n'arrête pas d'exploser, qu'on met en moyenne 7 à 10 ans à identifier un syndrome des ovaires polykystiques ou une endométriose. Donc on part du principe qu'il faut avoir le minimum de contre-indications. Et ça, c'est super important parce que, par exemple, dans les choses hormonales, on voyait beaucoup de choses avec des hormones ou des phytohormones qui, en fait, sont interdites à pas mal de catégories de femmes, notamment celles qui ont des antécédents de cancer du sein, ou autres, pas des ados aussi évidemment. Et enfin, beaucoup de choses à base d'huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles ont un gros pouvoir, mais les huiles essentielles ont aussi beaucoup de choses que j'aime pas beaucoup, comme des potentiels allergisants d'une part, mais aussi il y a beaucoup d'huiles essentielles, même la lavande vraie qui aujourd'hui sont un petit peu mis sur le banc des perturbateurs endocriniens suspectés. Et donc nous, comme la logique, c'était d'aider ce coup de pouce à revenir à l'état d'équilibre sans avoir des toxiques qui interfèrent avec l'équilibre hormonal, ça nous met dans une charte qui est très restrictive niveau composition. Donc, par exemple, on n'a que des parfums naturels, donc pas d'huile essentielle. On s'interdit ça, on fait hyper attention à le minimum de contre-indications, on regarde des ingrédients qui fonctionnent bien ensemble et bien dosés. On a souvent des plantes adaptogènes, ça j'aime beaucoup. Il faut savoir que sur plus de 20 000 plantes médicinales, il y en a que 20 qui sont identifiées en adaptogènes. Et c'est souvent les plantes sur lesquelles on a le plus de recul, le plus d'études. Et je trouve ça hyper intéressant au niveau du cycle, parce que ces plantes-là, c'est celles qui vont le plus s'adapter aux besoins de l'organisme. Donc parfois, on peut avoir des cycles où on a presque trop d'énergie, trop d'irritabilité, on est trop up. Et puis parfois, on est complètement assez de fatigue. Et des plantes comme l'ashwagandha, la rhodiole vont avoir cette capacité de se rendre soit énergisante quand on manque d'énergie, soit justement calmante et régulatrice quand on en a un peu trop, que ça déborde. Et c'est des plantes sur lesquelles il y a pas mal d'études, de recul, donc que j'aime bien, qui sont assez étrennées, qui fonctionnent bien entre elles. Et puis après, on essaye surtout de regarder comment on peut aider. Par exemple, la mélisse est super intéressante pour les crampes abdominales, un côté un petit peu antispasmophile. Calmant, on regarde par exemple quand on a des problèmes de sommeil pendant les cycles, comment ça se passe. Est-ce que c'est des difficultés d'endormissement ou est-ce que c'est plutôt des réveils pendant la nuit ou un réveil trop tôt? Souvent, c'est plutôt des réveils pendant la nuit ou un réveil trop tôt. Donc, ça va pas être les mêmes profils de plantes que les plantes de l'endormissement. Donc, en fait, c'est vraiment un travail d'orfèvre de décortiquer les symptômes, ce qui se passe dans le corps, et puis elle décide de prendre les plantes avec le moins de contre-indications, sans phytohormones, justement, pour convenir à toutes les femmes sans contre-indications. Et puis de faire les meilleures associations, tu vois. Par exemple, le magnésium, moi j'adore, je me drogue au magnésium depuis des années, ça me fait beaucoup d'effet. Et donc, on voulait vraiment faire un super magnésium, on conseille d'alterner les formes, avec trois formes de magnésium différentes. Enfin, après, c'est du bon sens, hein. Ouais. On se pose d'un côté avec des experts, de l'autre côté des femmes, et on regarde ce qui n'est pas trop difficile à prendre et ce qui convient le mieux, quoi.
Je viens de finir ma boîte de magnésium, j'ai vraiment vu un avant et un après, franchement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des perturbateurs endocriniens, justement,
Ouais, c'est un grand sujet. D'ailleurs, c'est une de mes névroses de base, hein, pour lequel j'ai lancé. En fait, pour moi, c'est cette menace invisible qui m'a toujours vachement inquiétée, parce que on parlait de dominance œstrogénique tout à l'heure. On parle beaucoup de perturbateurs endocriniens. Ce qu'on sait moins, donc les perturbateurs endocriniens, c'est ce qu'on va retrouver dans des produits ménagers, dans les plastiques, dans les emballages plastiques, dans les cosmétiques aussi, et qui va potentiellement interférer avec notre système endocrinien. Le système endocrinien, ce sont les hormones. Et le problème, c'est que tu as plus de 70% a priori estimé de ces perturbateurs endocriniens qui seraient des xénoestrogènes. Ça veut dire qu'ils vont spécifiquement cibler les œstrogènes. Donc aujourd'hui, quand on regarde les zones les plus chaudes, les points de pollution, on peut voir qu'il y a une féminisation des poissons, par exemple, quand il y a les eaux un peu salies de certains types d'usines riches en perturbateurs endocriniens. Le cancer du sein augmente même chez l'homme. On est passé de 1 à 2%, j'ai entendu récemment.
Ah oui.
Je ne sais pas si ça a été exact, mais donc les hommes qui ont des œstrogènes, mais beaucoup moins d'œstrogènes, donc ça veut quand même dire qu'on cible les pubertés précoces chez jeunes filles qui ont avancé de 2 ans en l'espace d'une génération. Donc on est forcément, quand tu vois des choses augmenter très fort, la thyroïde, le cancer du sein, on le rappelle, hein, on a fait quand même fois deux en l'espace de 30 ans. Donc c'est de mieux en mieux soigné, heureusement, de mieux en mieux dépisté. Mais fois deux en l'espace de 30 ans, ça veut dire qu'il y a l'exposome, c'est-à-dire l'exposition environnementale, qui a forcément un rôle très fort. Et les perturbateurs endocriniens sont également très suspectés dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques, de l'endométriose. Maintenant, je l'ai vu récemment, les phtalates au niveau des naissances prématurées. Il y a de plus en plus de naissances prématurées. J'ai lu une étude récemment qui disait qu'en baissant de 5% le taux de phtalates, on pouvait réduire le nombre de naissances prématurées. Donc, il y a quand même des suspicions, qui n'en sont plus d'ailleurs, de plus en plus fortes, des décrets qui passent. En pharmacie, en 2022, on était censé afficher dans les produits intimes les produits qui contenaient des perturbateurs endocriniens. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de label. On est plutôt à flouter sur les 90% d'ingrédients naturels alors que tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'il n'y a pas dans un produit. Ce n'est pas le X% 2 parce que je tout te rajoute fait. Un peu de poudre d'aloe vera et tout le tour est joué. Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment un sujet de société parce que quand on voit l'inertie, même pour les enfants, les jouets qui contenaient des phtalates, on sait que c'est très mauvais. C'est surtout très mauvais à des périodes comme la puberté, la jeune enfance, tout ça, c'est les moments où il y a des organes en période de développement. Et malgré tout, il y a une inertie réglementaire sur ce sujet qui est absolument folle. J'entends toujours arguer « oui, mais c'est la dose qui fait le poison et nous, on a des doses réglementaires ». Mais en fait, c'est même pas vrai dans les perturbateurs endocriniens. Il y a une courbe en U. Parfois, on peut être sous-exposé comme surexposé. Et quand on voit ce qui se passe, toutes les stats au niveau thyroïdien, puberté précoce, etc., c'est dangereux. On a des périodes de vie exposées aux hormones qui sont de plus en plus longues. Un environnement où on est très soumis aux hormones, l'eau du robinet. Moi, je conseille à tout le monde de filtrer. Tu parlais des gestes santé. Il y a notamment les filtres au charbon actifs qui sont quasiment les seuls actifs sur les hormones. Mais il faut savoir que quand on a des contraceptifs hormonaux et tout ça, on le rejette dans les eaux usées, les toilettes, et qu'aujourd'hui, un Veolia n'est pas capable de filtrer les hormones. Donc en fait, on se retrouve à ingérer de plus en plus d'hormones via l'eau du robinet, et on n'a pas défini vraiment de seuil, mais il y a une accumulation. Donc je trouve ça très important d'être au courant, et les quelques gestes filtrés au charbon actif l'eau, la cosmétique, les études récentes, parce qu'il faut savoir que les perturbateurs endocriniens, c'est une science très récente, hein. Le terme a été inventé dans les années 90, donc c'est très récent. Et en fait, on se rend compte aussi que les cosmétiques non rincées, c'est-à-dire celles qui restent longtemps en contact avec la peau, la peau est le plus grand organe du corps, donc il y a une surface qui est forte, et ben en fait, on se rend compte qu'il y a un impact très fort sur le taux de perturbateurs endocriniens dans les urines quand on trie sa cosmétique. Donc c'est pas du tout anodin. Les produits ménagers, voilà, bien aérés, enfin, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est un sujet dont on devrait encore plus parler parce que maintenant, on sait, on peut pas dire qu'on ne sait plus.
Toi, qu'est-ce que tu fais personnellement pour essayer justement
Moi, je suis obsédée depuis très longtemps. Mais après, il y a des moments, j'étais carrément tombée dans de l'éco-anxiété très forte, pour tout te dire. Donc, il faut savoir vivre dans ce temps. On ne peut pas vivre dans une grotte, hein, loin des microparticules de plastique qu'on respire tous les jours. Moi, ma définition, c'est de faire vraiment commencer par pragmatique. Je disais filtrer l'eau. Quand on a la chance de pouvoir faire une rénovation de son appartement et tout, voilà, plutôt mettre des parquets, des carrelages que des moquettes, surtout pas les linos, les trucs riches en formaldéhyde. Les meubles, essayer tant que possible de prendre du durable, plutôt des bois bruts que des bois justement agglomérés. On sait qu'il y a plein de particules de perturbateurs endocriniens, surtout dans la chambre des enfants, qu'on va respirer beaucoup. Après, tout bête, hein, mais aussi bien aéré, ça c'est aussi important parce que c'est ce qui stagne, hein, qui va être émis, notamment des cols et tout ça qui va beaucoup, on sait toujours que la pollution intérieure est pire que la pollution extérieure. Et après, évidemment, je fais attention à ce que je mets sur la peau et ce qu'on ingère, c'est-à-dire qu'aussi, alors c'est pareil pour les légumes, on n'est pas obligé, enfin l'alimentation, on n'est pas obligé de faire tout bio, ayatollah, c'est très cher, etc. Mais il y a des sites qui le disent très bien, il y a toujours la même dirty dozens, hein, ça veut dire ceux qui sont les plus contaminés. Typiquement les pommes, c'est un super ingrédient, il faut toujours mieux manger un fruit, mais les pommes, il vaut vraiment mieux les prendre bio. Aujourd'hui on a le choix en magasin, on peut le faire, je trouve que ça s'est quand même bien démocratisé. Les brocolis, par exemple, ça a assez peu d'impact. C'est des cultures qui demandent assez peu de pesticides ou qui en absorbent assez peu. Donc on peut regarder, on peut faire des choix pragmatiques, mais vraiment, on va dire, alimentation, eau, et faire attention à ce qu'on met sur la peau. Et surtout quand on est enceinte, on pourra en parler, mais moi je sais que dès mes premières grossesses, je me suis interdit tout ce qui était un peu à risque, quoi. J'étais un peu ayatollah, mais je mettais pas parfum, pas de vernis, pas d'huile essentielle. Alors s'il vous plaît, les espèces de sprays multi-huiles essentielles, éviter
pur essentiel et toutes ces marques.
Ouais, pour ne pas les citer, mais
ouais,
c'est dangereux, voilà.
Ouais.
Donc principe de prudence et puis les enfants aussi, parce qu'on parlait de l'adolescence et autres, mettre des produits bruts très purs. On disait voilà le liniment, l'huile d'amande douce et tout. Il y a pas besoin. Aussi quand je vois ces gammes cosmétiques pour enfants, ça me perturbe un peu parce que même si on a qui essaie de faire bien les choses, c'est malgré tout jusqu'à un certain âge, le plus brut et le moins c'est le mieux. Et l'adolescence, attention à l'acide salicylique. L'acide salicylique qui compte dans 90% des soins anti-boutons, anti-imperfections, et qui est un perturbateur endocrinien avéré et qu'on retrouve dans 90% des formules. Donc nous, c'est pour ça qu'on a mis de l'acide succinique à la place et qui est aussi efficace. Mais moi, ça me choque un peu. Tous les ados mettent ça et l'adolescence est souvent une période à risque parce que c'est vraiment un moment où on est en plein développement, très soumis aux hormones. Et en plus, si on commence à rentrer dans des routines, make-up, beauté sophistiquée, ça vaut le coup d'éduquer vos ados. Voilà.
On pourra pas dire qu'on ne le savait pas.
Il y a des choses toutes simples, les masques à l'argile tout simples, de l'huile de noisette, des choses toutes simples qu'on peut faire, pas chères, qui permettront de bien éduquer vos filles bien mieux que des choses sophistiquées qui n'ont pas lieu d'être à cet âge.
Très bien. Il y a énormément de conseils sur votre blog, notamment sur votre compte Instagram. Mais si on parle juste du syndrome prémenstruel, pardon, qui peut être très douloureux, autant mentalement que physiquement, il y a des explications scientifiques qui expliquent cela. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut agir dessus?
Bah oui, récemment, parce que finalement, il y avait assez peu d'études hein, sur ces syndromes prémenstruels, le postpartum. Là, je pense qu'il y a vraiment une révolution de la santé féminine qui est en train de se faire, parce que le nombre d'études était choquant hein, par rapport aux études sur les problèmes d'érection chez l'homme. C'était d'un rapport de 1 à 1000, quoi. C'était hallucinant. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, c'est très caractérisé, parce que tu parlais du mental, hein, c'est très encore plus compliqué de se dire « je vais pas bien dans ma tête », parce que c'est les hormones. Quand ça touche au mental, c'est presque le symptôme. On en rigole de manière ironique, mais on a finalement beaucoup de mal à poser un vrai mot et diagnostic dessus. Et aujourd'hui, il est prouvé que notamment, il y a même des troubles dysphoriques prémenstruels, donc ils sont vraiment assez marqués. Ça veut dire qu'on est vraiment dans des mini-dépressions mensuelles qui sont liées en fait à une baisse de réceptivité des récepteurs de dopamine et sérotonine. Donc ça, c'est les hormones qui vont jouer notamment sur la motivation et le bien-être, qui est entraînée par la chute hormonale à certains moments du cycle, notamment la chute des œstrogènes. Et donc, on est en train d'observer tous ces phénomènes. Et donc, s'il y a ça, ça veut dire que logiquement, quand on sait qu'on a tendance, moi j'étais vraiment dans la team tristesse et sensibilité exacerbée, et ben en fait quand on peut jouer sur la dopamine, ben avec le fameux tu vois produit le magnésium, le super magnésium qu'on a travaillé, ça va vraiment, c'est que des plantes qui sont reconnues pour être des précurseurs de dopamine et de sérotonine. T'as le griffonia avec le 5-HTP, donc en fait le safran et la rhodiole, on va vraiment jouer sur améliorer la production et la sensibilité à ces molécules. Et tout d'un coup, alors je dis pas qu'on change la vie, on voit tout en noir, on devient tout en rose, mais au moins, ces périodes où on ne se reconnaît plus, on se dit, mais pourquoi je suis aussi sensible? Pourquoi je me sens triste? Alors que je suis mieux que toutes mes amies, je me sens pas comme d'habitude, je me sens pas moi-même, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ça nous inquiète. Et en fait, au moins, ça va lisser tout ça. Ça veut dire que, on va se rendre, une mauvaise nouvelle resterait une mauvaise nouvelle, mais on va lisser et on va être capable de se reconnaître. Et c'est ça qui est extrêmement important. La limite, elle est là. On va pas gommer, on va jamais gommer le côté cyclique. En revanche, on va être capable de beaucoup mieux le vivre sans passer à cette étape où on peut décrocher tellement on se sent mal.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est important.
Avant de finir sur les petites questions de fin, est-ce que tu peux revenir sur les principales idées reçues que tu entends sur la santé féminine et qui t'hérissent le poil?
Il y en a beaucoup. Hein. Bah, en commençant, on a parlé à demi-mot, mais c'est normal d'avoir mal. Hein. Donc, c'est un des premiers posts qu'on a fait sur Millet, insupportable. Non, c'est jamais normal. Hein. Et voilà, il faut pas rester. Quand on a mal, il faut agir. Justement, il faut pas se dire « aujourd'hui, je suis pas bien et je reste bloquée chez moi ». Ça, je trouve pas ça logique. Les idées reçues, c'est de la même chose, c'est-à-dire de dire on doit subir en fait dame nature et compagnie. Mais non, mais ça c'est terrible parce que quand on regarde à l'échelle de la société, tu lis des livres, les livres sur la ménopause va être super intéressant, l'acceptation sociale, il y a des sociétés, des tribus où c'est hyper valorisé. Alors effectivement, il y a des moments du cycle où on est plus sensible. Les Américains qui sont hyper pragmatiques ont écrit un livre qui s'appelle In the Flow où tu vas voir que à cette phase-là, ta phase lutéale, tu vas être plus sociable, plus ouvert vers les autres, donc on te conseille plutôt de faire des événements, d'aller vers les autres et d'exploiter cette force, alors que ta phase folliculaire, tu vas avoir tendance à être plus dans la sensibilité, donc c'est peut-être plus le moment de regarder. Enfin voilà, on a des énergies qui varient pendant le cycle, mais je pense que on a ce côté très féminin aussi, on a une multiplicité d'énergies et de facettes qui est vraiment un potentiel à utiliser. Donc on ne doit jamais, que ce soit en syndrome prémenstruel, en postpartum et ou autre, se sentir vraiment limité. Il y a des phases de vie, on a un corps qui est capable de faire et d'absorber des choses extraordinaires et qui va passer à différents états d'équilibre, avec parfois des petites montagnes russes au milieu. Mais c'est naturel, c'est des passages et des états d'équilibre, donc il n'y a jamais de condamnation. Moi, quand j'entends des femmes dire « ça y est, j'ai eu des enfants, je peux plus faire de trampoline, je peux plus faire ça et tout », mais jamais de la vie, pas du tout. Le corps, il se rééduque, donc on doit toujours être bien et on n'est jamais condamné en tant que femme.
Très bien. Si on finit par des petites questions de fin, l'idée, c'est d'y répondre sans trop réfléchir. Ta plus grande leçon personnelle ou professionnelle de ces dernières années?
Ma plus grande leçon professionnelle, c'est forcément Millet, parce que je peux vous dire, alors, dans le genre de réflexion qu'on s'est pris au début en lançant la marque, heureusement, on a eu des forts soutiens aussi, hein, et je remercie ces gens-là, mais c'était vraiment c'est pas possible, ça va jamais marcher, vous allez pas parler hormones aux femmes, personne ne sait ce que c'est, en plus vous lancez dans des rayons différents, donc vous serez jamais en distribution, et puis que des peurs exprimées, et c'était vraiment une marque qu'on avait dans le ventre avec Anna et très instinctive, et on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit pas comme ça, ça a pas marché, il faut prendre un customer persona, il faut que ça soit la femme de 20 ans, soit la femme de 50 et tout, et on n'a pas voulu y aller, et aujourd'hui on est quand même contente parce que voilà, la marque décolle bien, on a des super beaux retours et surtout elle est acceptée pour ce qu'elle est, elle est très transgénérationnelle, tu vois, on a autant de 25-35 que de 45+. Et ça, si t'es des contre-facteurs marketing, moi j'ai le marketing, c'est tout l'inverse de ce qu'on t'apprend en marketing. Donc ça, c'est quand même, c'est pour moi une belle victoire, on va dire là-dessus, parce que c'est de l'instinct, quoi.
Est-ce que tu peux me citer une ressource qui t'inspire? Un livre, un podcast, un
Alors, film. Le livre qui m'a beaucoup ouvert les yeux là-dessus, c'est Le sexe de la santé de Alison MacGregor, qui est assez géniale, une médecin américaine et qui est la première à avoir mis le doigt avec d'autres personnes sur le fait que la médecine était très androcentrée. et qu'en fait les critères d'évaluation, les études et tout ça étaient peut-être pas assez différenciés entre hommes et femmes. En gros, un homme, une femme, la différence était un poids. La femme c'est 60 kilos, l'homme c'est 75. Et aujourd'hui, on se rend compte que les variations hormonales notamment, ça impacte énormément, mais même la métabolisation du doliprane. Et on va aller jusqu'à imposer un tiers de femmes dans les études cliniques parce qu'on a des médicaments génériques qui augmentent de 70% les risques de diabète chez les femmes ménopausées, enfin des trucs absolument dingues. Donc il y a un gros chantier en santé féminine et lire ce livre, ça permet de se rendre compte à quel point ces questions-là sont récentes et à quel point... les symptômes typiquement féminins n'ont pas été si creusés que ça, quoi.
Un échec que tu aurais vécu et une leçon tirée.
Un échec, par exemple, on pourrait dire l'association au début, ou peut-être mon retour à Paris qui était un petit peu chaotique, ou justement de retour avec les trois enfants, j'ai eu un petit peu de mal à me réhabituer à Paris, de mal à trouver mon sens dans mon travail. Donc oui, je pense que ces périodes-là de forte remise en question, c'est aussi des choses qui permettent de mûrir d'autres projets et qui m'ont permis de me lancer dans Mille. Parce qu'il faut avoir, je dis toujours, c'est un mélange, toutes les émotions, il faut les utiliser, hein. La frustration, la colère, il faut savoir la reconnaître et l'identifier aussi pour en créer quelque chose. C'est des énergies qui peuvent servir.
Tes routines pour rester bien physiquement et mentalement et ne pas dépasser tes limites malgré le travail que demande l'entrepreneuriat.
Alors déjà, le bonheur de l'entrepreneuriat, c'est de s'entourer de gens qu'on aime bien, tu vois, de choisir ce qu'on fait. Et donc, je ne travaillerai plus jamais avec des gens qu'on n'aime pas, comme on peut le faire parfois en entreprise. Donc, travailler avec Anna, ouais, c'est un plaisir. S'entourer, enfin, toutes les équipes, c'est top. Et ça, on fait très attention à vite crever les abcès, avoir des énergies positives, parce que ça, c'est énorme. Et puis, alors, comme je te le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que je m'applique de plus en plus, ce qui n'était pas vrai au début, mais la première année, j'étais limite fébrile à la fin de la première année, donc maintenant je le fais plus. C'est le côté équilibrer les sphères. C'est-à-dire, je te disais, quand j'ai une semaine de marathon parisien, tu peux être sûr que la semaine d'après, je vais me faire une après-midi ou je sors plus tôt et je vais faire mon sport ou un pot avec des copines ou, et ça, je fais très attention à ça, à planifier, tu vois, les périodes où j'ai beaucoup bossé et tout, je vais prendre le train en retour et je vais me planifier des choses avec des copines, des événements sportif et je pense que c'est hyper important de se l'imposer, même si ça peut paraître un peu artificiel au début, parce que c'est vraiment ça qui fait tenir dans la durée.
Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui souhaitent se lancer dans un projet qui leur tient à cœur mais qui n'osent pas?
Si ça vous empêche de dormir, allez-y. Non, mais c'est vraiment ça, parce que je vais pas mentir, l'entrepreneuriat, on fait beaucoup de tableaux édulcorés, c'est dur, et toi tu le dis très bien dans tes podcasts et tout. Il y a des moments assez vertigineux, on est un peu face seul à soi-même, les enjeux sont pas les mêmes que quand on est salarié, et il faut vraiment, c'est bon parce que c'est le but, enfin il y a des gens qui ont très envie d'être entrepreneur, mais le but ultime c'est quand même d'apporter quelque chose qu'on a dans les tripes, et donc je par beaucoup de ce principe, déjà une idée qui vraiment vous travaille à tel point que vous êtes prêt d'y consacrer beaucoup d'énergie, quoi. C'est principal, je pense.
Et on va finir par la question rituelle du podcast pour cette saison. C'est quoi pour toi devenir acteur de sa vie?
Devenir acteur de sa vie, je pense que c'est vraiment cette notion d'alignement. Ça veut dire que on a toujours tendance à se sentir pris au piège dans des schémas, à se dire qu'il faut faire comme ça, qu'on a un emprunt, qu'on habite là, qu'on peut pas bouger. En fait, on se crée beaucoup de peur. Et je pense que, voilà, quand on est plus guidé par ses espoirs et ce qu'on a envie de faire que par ses peurs, on passe des gros gaps. Et souvent, il faut poser le worst case scenario, le best case. Il y a toujours cet entre-deux. Mais il faut pas avoir peur. On se limite tellement par ses peurs. Donc, être acteur de sa vie, c'est dépasser un peu ses peurs et essayer d'être le plus aligné possible. Parce que la vie, c'est un apprentissage continu.
Merci beaucoup.
T'en prie.
Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.